Bodimos à tous, vous allez bien?
Oui.
Nous aussi, c'est bien. On va commencer tout de suite par une lecture dans l'évangile de... Non, pas dans l'évangile, dans la première lettre de Jean au chapitre 5 et verset 13. Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses, c'est donc Jean qui écrit, hein, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen.
Amen.
Ça, c'est un texte très clair. Et j'ai choisi ce texte ce matin pour illustrer ce que j'ai à vous dire, parce que je reçois très souvent des messages de chrétiens même, et aussi de non-chrétiens qui se posent des questions, qui ne comprennent pas clairement ce qui concerne la vie de disciples de Jésus-Christ. C'est une chose qui est compliquée pour eux, et même des chrétiens vraiment qui sont sincères, mais qui semblent ne pas avoir de joie, d'assurance en Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous expliquer une chose, une vérité fondamentale, et je pense que c'est bien si vous pouvez la partager avec vos amis sur le net, ou d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ce que je vais vous dire, c'est un résumé d'une vaste connaissance, une vaste vérité. Mais ce résumé est assez complet quand même. Vous avez tous lu et entendu parler du repentir, du fait de croire, d'être né de nouveau. Mais certains semblent être dans l'incertitude. Est-ce que ces choses me sont vraiment arrivées à moi? L'assurance de la conversion. Est-ce que je me suis vraiment converti? Alors, devenir chrétien, ça peut être une expérience précise. L'apôtre Paul, il était sur son cheval et il s'est converti d'une façon radicale, précisément à un moment bien précis. Pour ma part, ce n'est pas que je me compare à l'apôtre Paul, mais c'est pour donner un exemple, eh bien, je sais où et quand et à quelle heure je suis devenu chrétien. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'était le 1er juin 68, à 21h45, à la Maison du Peuple, à Lausanne, tout au fond de la salle, assis sur une table. Voilà, c'est là où je suis devenu chrétien. Je suis né de nouveau à ce moment-là. Pour d'autres personnes, devenir chrétien, ça peut être le point culminant d'une expérience, d'une évolution spirituelle, consciente ou non. Dans la Bible, il y a des gens qui se convertissent un petit peu comme moi je me suis converti, pour la simple et bonne raison que le christianisme était quelque chose de nouveau, et quand ça leur parvenait, eh bien c'était oui ou non. Ils chipotaient pas au sujet de dire oui, mais est-ce que c'est bien la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas. Vous savez, il n'y avait pas d'autres religions chrétiennes que celles qu'on leur présentait. Il n'y avait que la vérité, puis c'est tout. Donc, c'était des conversions radicales. Il n'y avait pas une éducation chrétienne dans les familles, puisqu'il n'y avait pas de christianisme encore, c'était tout nouveau. De nos jours, les gens naissent dans des familles dites chrétiennes. Et alors, ça fausse l'expérience des conversions subites. C'est-à-dire que beaucoup ont une éducation religieuse dans leur jeunesse et ils ont l'impression d'avoir toujours été chrétiens. Beaucoup de gens m'écrivent, j'ai toujours été chrétien. C'est formidable, mais c'est pas vraiment vrai. Hein. On a une culture chrétienne, oui, peut-être bien, mais on n'est pas forcément chrétien. Raphaël, il avait une phrase toute simple, il disait, c'est pas parce que je suis né dans un garage que je suis une voiture. C'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne, dans un pays chrétien, de culture chrétienne, qu'on est chrétien. Voilà. Alors, l'éducation chrétienne ne peut pas prendre la place de la nouvelle naissance. Ça ne peut pas. Bon, je ne vais pas faire de critique au sujet de l'éducation chrétienne. C'est une très bonne chose que d'avoir une éducation chrétienne. Il vaut mieux avoir une éducation chrétienne qu'une éducation de n'importe quoi, comme on voit de nos jours, avec voilà, tout ce que ça comporte. Je fais juste une critique de ce qu'on fait de cette éducation chrétienne. Hein? Quand on la substitue à l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ça que je critique. On va lire Jean 3, versets 3 à 7. C'est Jésus qui parle à un pharisien, donc à un religieux, qui est venu le voir de nuit et qui lui dit tu es un docteur venu de Dieu, parce qu'on sait bien, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà, il n'y avait pas de doute à ce sujet. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. On est tous nés de la chair, plus ou moins volontairement. Il y a des gens qui sont nés de la chair, leurs parents ne les voulaient même pas, mais ils sont nés quand même. Il y a toutes sortes de choses. Mais être né de nouveau, c'est autre chose que de naître de la chair, de naître de son papa, de sa maman. Jésus dit ça donc à un homme qui avait une grande connaissance religieuse. C'était un pharisien, c'était le best du sommet du masque de l'époque. C'était quelque chose d'extraordinaire, sa connaissance était formidable, mais Jésus lui fait comprendre que ça ne peut pas remplacer la nouvelle naissance. Si vous regardez dans la nature, simplement dans la nature, je parlais de notre naissance à nous, le fait, on passe 9 mois dans le ventre de notre maman. C'est très important. Et la lenteur de cette croissance-là n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous naissiez, que vous sortiez de là. D'accord ? En naissant, vous abandonnez ce qui est ancien pour recevoir ce qui est nouveau, cette vie dans ce monde, et vous abandonnez l'intérieur du ventre de votre mère avec les glou-glou et toutes ces choses-là. Pourtant, c'est nécessaire. Pour ce qui est de la nouvelle naissance, il y a un moment où vous avez franchi la frontière entre les ténèbres et la lumière. Il y a eu un temps où les choses se sont formées, ont fait que vous en arrivez au point où vous pouvez naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, mais par la volonté de Dieu. En fait, les doutes ne viennent que parce que les gens cherchent dans les Écritures ce que les Écritures ne disent pas de chercher. Et alors, ça fait de la confusion. Ce qui compte, c'est la foi dans les Écritures. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Mais il faut avoir la foi pour pouvoir bénéficier du salut que Jésus nous offre. Le mot « foi », il est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Dans Hébreux 11:6, il nous est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez ce que c'est qu'un rémunérateur ? Hein ? C'est celui qui paye. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche, c'est-à-dire que voilà, celui qui s'approche doit croire que Dieu... On ne peut pas s'approcher de rien. Hein ? Il faut croire au départ. Et que sans la foi, il nous est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Alors le gros problème, c'est que beaucoup confondent le mot « foi » et le mot « sentiment ». La foi, elle implique toujours un objet. Écoutez bien ça. Si nous croyons en quelque chose. Croire en Dieu, c'est croire dans le fait qu'il existe. Et pour bannir les incertitudes, il y a 3 mots absolument nécessaires qui permettent d'avoir une vie chrétienne stable. Une vie chrétienne, des gens qui ont une vie de chrétien en dents de scie. Pour avoir une foi, pour avoir une vie chrétienne stable, il y a 3 mots. C'est le mot fait, un fait, foi et sentiment. Et nous ne devons pas placer ces 3 mots dans n'importe quel sens, ou nous ne devons pas en oublier un. Les 3 sont nécessaires et dans ce sens-là. Les faits, la foi et les sentiments. Si vous les confondez, si vous en supprimez un ou si vous en ajoutez un autre, ben vous allez vous perdre dans une espèce de bourbier de désespoir dû à des incertitudes, à des incompréhensions et vous allez nager en eau trouble. Et vous allez continuer à tâtonner dans une espèce de semi-obscurité fort désagréable. Vous ne marcherez pas dans la lumière, comme Jésus dit, celui qui croit en moi, il marche dans la lumière. Alors, Si vous êtes sauvé du péché, vous êtes sauvé par une foi personnelle dans ce que l'Évangile révèle de Jésus-Christ et de son œuvre. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. On va lire 1 Corinthiens 15, 3, 4. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Et quand il dit selon l'Écriture, il veut dire selon l'Ancien Testament. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts, etc. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, etc. Et puis ensuite il m'est apparu à moi, et voilà. Bon, voilà ce que Paul dit. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes sauvés quand nous mettons notre foi, notre confiance, le mot foi signifie confiance, dans ce fait. Dans quel fait ? Dans le fait de l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est un fait. La croix, c'est un fait. Le tombeau de Jésus, c'est un fait. La résurrection de Jésus, c'est un fait. Nier cela, c'est être un négationniste. Ah. Parce que l'histoire parle de ces choses, il n'y a pas que la Bible qui parle de ces choses. Alors écoutez bien cela, il est impossible d'appeler quoi que ce soit à l'existence simplement en y croyant, c'est impossible. L'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, ne devient pas une réalité parce que des gens y ont cru. Le tombeau n'a pas été vidé de son contenu à Pâques parce que quelques fidèles y ont cru. Non, c'est un fait. Le fait précède toujours la foi. On a foi dans un fait. Écoutez bien, psychologiquement, nous sommes incapables de croire sans donner un objet à notre foi. On ne peut pas croire quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'a pas eu lieu. Or, la Bible ne nous demande pas de croire quelque chose d'incroyable. Elle nous demande de croire, c'est-à-dire d'accepter un fait historique qui, en réalité, domine tout. On ne dit pas, nous sommes en 2700 après Sylvie Vartan. On ne dit pas, non, c'est après Jésus-Christ. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est pas pour rien. Il ne manquerait plus qu'on nous oblige à changer ça. Hein? Déjà qu'on nous oblige à changer les crèches dans les mairies et tout ça. Vous savez, ils vont bientôt y venir aussi à ça. Non. La Bible vous demande de croire que l'œuvre de Jésus accomplie pour le péché en faveur des pécheurs, est efficace pour tous ceux qui se confient entièrement à Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible demande. Croire en lui pour notre salut éternel, c'est mettre notre confiance dans un fait. Alors la foi, elle vient en fait en second dans l'ordre des trois mots. Je vous parlais dernièrement de ma foi rationnelle, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça paraît une imbécilité aux yeux des incroyants, mais ma foi est rationnelle. La foi rationnelle est impossible là où il n'y a rien à croire. La foi doit avoir un objet. L'objet de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Avoir la foi signifie plus qu'avoir un assentiment intellectuel aux exigences de Jésus-Christ. La foi, elle engage la volonté. Et je vais vous apprendre peut-être un mot, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Bon, il n'y a pas longtemps que je le connais. La foi, elle est volitionnelle. La foi est volitionnelle. Elle est volitionnelle, c'est-à-dire qu'elle est un acte de la volonté. Je veux croire dans un fait. C'est un acte de volonté. Ils sont là, oh, j'aimerais tellement avoir votre foi. Tu n'as qu'à le vouloir. C'est un acte volitionnel. La foi est un acte de volonté. La foi demande l'action. Bye bye. Si nous croyons vraiment, alors nous vivrons. Parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Et la première chose, c'est un acte de volonté. Donc c'est une œuvre. La foi signifie que nous capitulons, notre volonté, nous capitulons, nous acceptons la volonté de Dieu plutôt que notre volonté. Ça signifie que nous avons une prise de conscience de nos péchés, de nos erreurs, et nous retournons à Jésus-Christ. J'ai mis le témoignage de Brad Pitt, l'acteur, et beaucoup, quelques-uns, ont contesté, en disant, oui, on ne sait pas si c'est vrai, bon. Quand je me suis converti, les gens ont douté que je m'étais vraiment converti. Ils ont dit, oh, c'est qu'un feu de paille, on connaît Michel, ça ne va pas tenir. C'était en 68 et je suis encore là, à croire, à prêcher l'évangile. Pourquoi douter que Brad Pitt se soit converti? Je le tiens, c'est un fait, d'un pasteur, Bill William, qui est pasteur des Assemblées de Dieu aux États-Unis, c'est mon ami, et de sa femme, Joanne, et de leur fils, Mark, qui sont tous dans les Assemblées de Dieu aux États-Unis. Joanne et Bill ont habité Hollywood pendant des années, ils ont gardé des contacts avec les pasteurs d'Hollywood, avec les pasteurs de tout ce business, de ce show business, et il est clair et il est net que les parents de Brad Pitt étaient des chrétiens nés de nouveau, born again, nés de nouveau, dans l'église des Assemblées de Dieu aux États-Unis, et que Brad Pitt est né dans cette ambiance-là, et puis après, avec la carrière et tout, ben, vous connaissez la vie qu'il a eue, mais il est revenu à Jésus. Il est revenu à Jésus. Et maintenant, il veut marcher selon le commandement de Jésus. Et plutôt que de douter de ça, ben, réjouissez-vous. Merci Seigneur, c'est bien, c'est extraordinaire. Quelqu'un m'a écrit, oui, vous les chrétiens, vous cherchez toujours à briller en montrant que des célébrités sont converties. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? La plupart des gens que nous emmenons à Jésus sont des pauvres, des malheureux, des gens des misérables, qui sont des... Voilà. Mais quand on a quelqu'un comme Brad Pitt qui se convertit, ben on le dit. Hein, ça fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. Il a capitulé. Il a dit, bon, ben maintenant, je veux faire la volonté de Jésus. C'est-à-dire, il a eu conscience de son péché et il est revenu à Dieu. Vous savez, on ne connaît pas Jésus-Christ par les cinq sens physiques, mais par le sixième sens que Dieu a donné à chaque humain, c'est la faculté de croire. Nous avons cette faculté. On décide de croire ou pas, mais c'est un acte de volonté. C'est vous qui décidez, oui je crois, non je crois pas. Alors le sentiment, c'est le troisième mot de la liste. Vous vous rappelez, le fait, la foi et le sentiment. Il doit rester le dernier dans la liste. Je sais que beaucoup d'angoisses et d'incertitudes religieuses, de chercheurs sincères et honnêtes, proviennent de l'idée préconçue qu'ils se font, qu'il faut absolument être dans un état particulier d'émotion quand on s'approche de Dieu et qu'on se convertit. Qu'il faut pleurer, qu'il faut frissonner, il y en a qui même qui doivent, ils tremblent, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Alors, beaucoup d'entre vous avez entendu l'invitation que Jésus donne dans la Bible. Hier soir, je parlais avec un serviteur de Dieu, et je lui disais, mais moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Si Jésus le dit, ça suffit pour moi. Si Jésus dit, crois et tu seras sauvé, je le crois. S'il dit, imposez-moi là, les malades sont guéris, je le crois. J'ai pas besoin que quelqu'un me consacre pour le faire. Jésus a dit de le faire, je le fais, et c'est tout. C'est un fait, il l'a dit. Alors je fais ce qu'il dit, et c'est tout. Et Jésus a dit, il a invité tout le monde, vous aussi, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Si vous n'avez pas besoin de repos, si tout va bien dans votre vie, si vous n'êtes pas coincé dans des histoires pas possibles, si vous n'avez vous avez pas besoin de Jésus. Jésus dit, moi je suis venu pour les malades. Comme le médecin, il est venu pour les malades, il ne va pas vers les gens en bonne santé. Si vous n'en voulez pas, ça, c'est vous qui voyez. Il a dit aussi, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire, si tu vas vers Jésus avec un cœur sincère et repentant, comprenant que tu as péché, il ne va pas te dire, non, il faut d'abord que tu jeûnes une dizaine de jours, ou non, il faut que tu fasses des neuveux, non, il faut que tu marches à genoux sur 3 km en faisant des signes de croix ou de je ne sais quoi. Non. Si tu vas à Jésus, si tu lui parles sincèrement, si tu lui dis, voilà, je suis vraiment malheureux d'avoir péché, je t'ai offensé, il ne te rejettera pas. Jamais. Il n'a jamais rejeté personne. Ce qu'il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu as soif de justice, tu as soif de paix, tu as soif de quoi que ce soit. Va à lui, il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Il l'a promis, on trouve ça dans Jean 7, 37. S'il le dit, c'est vrai. Alors vous pouvez lire toute la Bible, mais toute la Bible, pour découvrir quelle sorte d'expérience vous pouvez vous attendre à faire lorsque vous approchez de Jésus, il n'y a rien de tout ça dans la Bible. Mais rien. C'est des bobards religieux. Ceux qui vous racontent, quelques personnes peuvent ressentir des trucs. Mais ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une obligation. Il n'y a qu'un seul sentiment auquel vous pouvez vous attendre, c'est le sentiment d'avoir la certitude, la foi, croire. C'est une expérience dans laquelle on n'a pas à chercher de sensation. Beaucoup de chrétiens tombent dans un péché ou dans un autre et ils sont devant Dieu, ils demandent pardon, jusqu'à ce qu'ils ressentent la joie de leur salut. C'est des bobards! Si vous avez péché, la Bible dit, confesse ton péché à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Tu n'as pas besoin de sentir qu'il t'a pardonné, tu dois croire qu'il t'a pardonné. C'est tout. Tu te tortures à vouloir avoir le sentiment de la joie du Saint-Esprit. C'est des bobards qu'on raconte, des histoires, des femmes, des machins, de vieilles mémères déséquilibrées. Pardon les grands-mamans, pardon, vous n'êtes pas toutes déséquilibrées, mais il y en a pas mal quand même. Hein. Il y a aussi des jeunes qui sont déséquilibrés. On en connaît. La Bible dit simplement que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Et non pas par le sentiment d'être juste. Si tu n'as pas le sentiment d'être juste, on s'en fout, tout le monde s'en fout et tu devrais t'en foutre aussi. Ce qui est important, c'est que tu aies été rendu juste aux yeux de Dieu par la foi. Tu crois que Dieu te regarde comme quelqu'un de juste, tu es justifié. Mais les autres savent bien que je ne suis pas complètement parfait. Mais ça, on le sait. Ce qui est important, c'est d'être juste aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait que tu vas pouvoir rentrer auprès de Dieu après ta mort. Tu comprends? Alors, quelle est la place des sentiments? Est-ce qu'ils n'ont aucune place dans l'histoire du salut? Oui, ils ont une place. Mais ce ne sont pas les sentiments que vous avez ou pas qui vous sauvent, qui sont la preuve que vous êtes sauvé ou pas. Ce n'est pas vos sentiments. J'aime dire les sentiments. Le sentiment. Ment. Très souvent, vos ressentis vous mentent. Les sentiments que vous pouvez ressentir sont la conséquence de votre foi. Mais ces sentiments n'ont aucune vertu, aucune force pour votre salut. 1. C'est Jésus qui sauve. 2. Vous le croyez, alors vous êtes sauvé. Et puis après, vous pouvez avoir un sentiment de paix, de tranquillité et tout, c'est très bien d'avoir ça, mais c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui sauve. Alors, quand je saisis l'amour de Jésus pour moi, qui suis un pécheur, je réponds en l'aimant à mon tour, c'est-à-dire en faisant ce qu'il dit, en étant, en ayant une vie la plus proche de ce qu'il dit. L'amour, c'est aussi quand même un sentiment. Mais l'amour pour Jésus, il est au-dessus de toute manifestation des sens inhérente à l'amour humain. C'est un amour sans aucun égoïsme. La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte » 1 Jean 4, 18. Et ceux qui aiment Jésus ont en eux cette confiance qui éloigne d'eux toute crainte. Vous savez, quand vous comprenez que Jésus, par son sacrifice, a remporté une victoire décisive sur la mort et sur le péché, mais vous perdez toute crainte de la mort. On va lire Hébreux 2, 14. Eh, Michel Jonton, il ne change pas. Hein. Il faut toujours aller dans la Bible. Hébreux 2, 14. Ainsi donc. Est-ce que c'est ça? Je veux dire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, donc Jésus, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, a pris une chair semblable à la nôtre, il a participé à la vie humaine telle que nous l'avons, nous, avec nous. Mais il n'a jamais péché, parce qu'il a toujours dit non en face du péché, mais il avait un corps comme le nôtre, et c'est ce corps qui a été sacrifié à notre place, afin que tous ceux qui croient en lui sortent des griffes du diable qui est lui-même avec la puissance de la mort. Lorsque nous passons des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie, ce n'est pas simplement une jolie phrase, c'est une réalité. Quand vous croyez que Jésus-Christ est mort à votre place sur la croix, il n'y a plus de problème avec la mort. Bon, bien sûr que vous mourrez, ou pas, parce que peut-être vous serez enlevé avant. Mais en tout cas, une chose est certaine, on n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que la mort est vaincue. Pourquoi? Mais parce que le diable est vaincu, et c'est le diable qui tient la puissance de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? La crainte, c'est un sentiment. Surmonter la crainte par l'assurance et la confiance, même en face de la mort, eh bien c'est aussi un sentiment, c'est une expérience. L'assurance et la confiance sont le résultat de votre foi en Jésus-Christ. Moi, j'ai vu des gens mourir, des chrétiens mourir, en ayant la foi, et ils sont morts, le sourire aux lèvres. Eh oui, avoir une conscience chargée à cause de nos péchés, à cause de nos manquements et tout ça, c'est une expérience. Les psys définissent cela comme un complexe de culpabilité. Et c'est absolument impossible de chasser ce sentiment, ce complexe de culpabilité, par des raisonnements. On ne peut pas chasser ça par des raisonnements. On va lire Hébreux 9, 13, 14. Les gens, ils vont chez le psy, ils parlent, ils disent « ça m'a fait du bien ». Oui, parce qu'ils ont parlé, ils se sont déchargés un peu. Mais s'ils n'y retournent pas, ça revient. Hein. Hébreux 9, et puis ça coûte cher. 9, 13, 14. Pardon, les psy. Voilà ce qui est dit là. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, donc ça c'était au sujet des sacrifices qui se faisaient avant Jésus-Christ, on sacrifiait des taureaux, et voilà. Il dit, à combien plus forte raison le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il purifie votre conscience, c'est-à-dire votre conscience qui est chargée va devenir toute légère, parce qu'elle sera purifiée par Jésus-Christ. Vous ne vous sentirez plus coupable. Vous saurez, vous rappellerez toujours que vous avez fait des bêtises, mais vous vous sentirez plus coupable. C'est pas important, ça? La purification, maintenant, de votre conscience, ça ne vous sauve pas. Tiens, vous avez des gens qui sont simplement amnésiques, qu'ils ont oublié, qu'ils ont fait des bêtises. Ou ils veulent oublier qu'ils ont péché. Et les gens qui disent, j'ai jamais péché. Je vous mets au défi, vous qui me dites, j'ai jamais péché. Venez passer une semaine à la communauté, et chaque fois que vous allez faire quelque chose qui est un péché, je vais vous donner une coche, hein, et puis on fera le calcul à la fin de la semaine. Qui c'est qui peut être bête pour dire, j'ai jamais péché? C'est terrible. Et les gens qui disent, je n'ai jamais menti, c'est des menteurs. La purification de votre conscience, c'est le résultat d'une relation normale avec Dieu. C'est tout. La joie, c'est un sentiment. La paix intérieure, c'est un sentiment. L'amour pour les autres, c'est un sentiment. Alors, écoutez bien ça pour finir. Certains me disent, moi je crois aux faits historiques qui sont racontés dans les évangiles, mais je ne suis pas encore sauvé. Je ne peux pas dire que je suis sauvé. C'est très possible, j'en connais qui sont comme ça. Parce que la foi, mes enfants, la foi qui sauve, elle a une qualité distinctive. Vous voyez, j'ai un fauteuil là. J'ai la foi que je peux m'asseoir dessus sans qu'il craque. C'est la foi. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est une foi différente. C'est une foi qui produit l'obéissance. Elle influence la manière de vivre. Alors le problème ne vient pas de « j'arrive pas à croire que c'est possible que je sois sauvé ». Le problème vient du fait que vous n'obéissez pas à Jésus-Christ et alors vous êtes toujours dans la confusion. La foi a pour conséquence la sainteté, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. On se met à part pour Dieu. Il peut arriver qu'on fasse des bêtises, mais quand on fait des bêtises, on vient vers Dieu, on les lui avoue, et il nous pardonne, et puis on repart de nouveau purifié. Personne, aucun chrétien n'est parfait, mais aucun chrétien n'a une conscience chargée. Si vous êtes un chrétien et que vous avez une conscience chargée, mais allez vers Jésus-Christ et parlez-lui de ça, et il va vous purifier votre conscience. Dites-vous, ce que je fais, c'est trop grave. Mais vous croyez que Dieu, ça l'impressionne, ce que vous avez fait? Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, depuis des milliers d'années, il n'est pas en train de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Mais c'est pas possible, tous ces péchés qu'il a fait, puis qu'il refait. Dieu n'est pas comme ça. Il suffit que vous alliez vers lui, il vous met votre compteur à zéro. Ça, c'est la foi dans ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est un fait. Alors que votre foi intellectuelle, que votre foi de tradition que vous pouvez avoir soit totalement abandonnée à Christ, à Jésus-Christ des Écritures. Recherchez sincèrement le salut sur l'autorité de la Bible, pas sur vos sentiments ou sur ce que les gens racontent. Je vous lis un dernier texte dans la Bible qui se trouve dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui c'est qui vous a fait naître de nouveau? C'est Dieu. Mais il fait naître qui? Les gens qui croient. Les gens qui croient dans un fait. Quel fait? Celui que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix à notre place. Si vous croyez ça, vos sentiments doivent se régler. Les faits sont là. Votre foi est là. Et votre... vos sentiments vont suivre, ils vont être la conséquence. Et vous aurez une vie de chrétien stable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à bien saisir ces choses-là, à mettre ça dans leur tête et dans leur cœur, afin d'avoir une bonne vie chrétienne stable. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.